que ces usages bonne année à toutes et à tous. Ce soir, nous allons avoir le plaisir d'entendre Colette Seller faire son exposé intitulé « La parole et son dire ». Et avant de vous passer la parole, je voudrais vous dire que seule apparition n'a pas pu être ici ce soir. Nous le regrettons et elle s'en excuse auprès de vous. Et je passe tout de suite la parole à Colette.
J'étais assez embarrassée pour préparer cette contribution. En fait, pas par le manque de matière, mais au contraire par l'excès de matière. Au fond, c'est donc à la fin de l'Empire que Lacan, en juillet 72, ouvre l'étourdi sur cette fameuse phrase « qu'on dise reste oublié ». Et avec ça, je crois que malgré les apparences, un coup d'arrêt est mis à la période logicienne des années précédentes. Je dis malgré les apparences parce que, comme vous le savez, le texte de l'étourdi recourt très largement à la logique des ensembles, à la logique propositionnelle de Frege, à la subversion de la modalité, des modalités logiques d'Aristote, et en plus, sans parler donc de la topologie. Il n'empêche qu'avec l'étourdi, ce qui précède trouve, selon moi, son point de capitaux, et qu'un nouveau chantier s'ouvre avec le modal du condisme. Lacan introduit, vous le savez, beaucoup de termes nouveaux. Le dire comme verbe, qu'on dise, modal, le dire substantivé, un dire, celui de Freud et d'autres, et puis le dire, qui pour la première fois substantive le participe passé du verbe dire. Un dit, des dit. Alors, si on tire l'un ou l'autre de ces fils, ben, toute la psychanalyse vient. C'était ça la difficulté, et elle est remise en perspective à partir de ce modal. Je commence ce soir par le plus facile, et c'est-à-dire le pas nouveau qui se trouve dans ces termes. Et je vais d'abord commencer donc à parler de ce qu'il appelle les dits et le dit de l'inconscient. Le participe passé est d'un usage nouveau. Dire le dit, c'est un usage nouveau. Mais enfin, en fait, ça reprend en d'autres termes du déjà connu que je vais résumer brièvement. Dès lors que Lacan précise ce qu'il entend par là, en disant « les dits se posent en vérité ». Et il ajoute « ils ont la vérité pour signifier ». Alors, il s'agit donc de rien d'autre que de ce qu'il a intitulé depuis longtemps « la chose freudienne ». Et il le dit lui-même dans l'étourdi, « la chose freudienne » que j'ai situé d'être le dit de la vérité. Le dit de la vérité qui est évidemment à structure de langage avec signifiant et signifié. Nous sommes là en terrain connu. Qu'il évoque le signifié après tant d'années passées à parler de signifiant et signifié, nous induit à considérer qu'avec ce substantif, les dits, il condense en réalité l'expression qui se trouve en tête de l'étourdi, ce qui se dit dans ce qui s'entend. Un dit, c'est ce qui se dit dans ce qui s'entend. En supposant que ce qui s'entend, ce sont les signifiants, et que ce qui se dit, c'est à la place du signifié la vérité du sujet. Il s'agit donc finalement, avec Lady, condensant la phrase en question, il évoque en fait la spécificité de ce que l'on a nommé l'écoute analytique, l'écoute analytique depuis Freud n'a pas d'autre fin avouée ou effective que de capter et d'interpréter ce qui se dit, la vérité, dans ce qui s'entend, la chaîne signifiante. Alors, bon, c'est un petit peu compliqué, parce que qu'est-ce qu'entendre un signifiant dès lors que le verbe « entendre » est à double sens, équivoque. Il signifie d'un côté « je perçois un bruit ou un son avec les oreilles », et il signifie aussi, dans la langue française, « je comprends ». Et parfois même, « je veux ». Quand on dit « j'entends bien démontrer »,« j'entends bien obtenir », etc. Donc, dans la parole, on entend d'abord avec les oreilles, mais les sons organisés en langage se distinguent du bruit, et dès lors, le registre de ce qui se capte de signifiant est d'entendement. Ça, c'est la vieille expression de Lacan des années avant. Au fond, le sonore de la parole a cette propriété toujours d'être lui-même équivoque. Pour la raison que dans l'entendu sonore, les unités de signifiant sont incertaines. Elles sont à identifier. Toute séquence sonore, ou presque toute, prête donc à des lectures diverses. Quand Lacan disait « ce qu'il s'agit de capter est d'entendement », ça voulait dire pas d'audition, bien sûr, c'était pour souligner le fait que dans cette parole, Freud nous a appris à identifier d'autres signifiants que ceux de l'intentionnalité du locuteur, et sans qu'il s'agisse cependant de lire dans le marc de café. Bon, il s'agit d'identifier les uns de signifiant, de ce qui est proprement signifiant, c'est-à-dire les uns qui conjuguent l'élément formel et le sens. Ils s'entendent donc, non comme le bruit par les seules oreilles, mais par l'entendement qui les identifie. Tout cela, au fond, ça résume les 20 ans d'enseignement qui précèdent l'étourdi, hein, avec ces dits qui sont ce qui se dit dans ce qui s'entend. Bien. Alors, quand on dit de l'inconscient qui parle dans la parole analysante, que dit-il ? Le dit de l'inconscient. Lacan le met au singulier. Il n'y en a donc qu'un. Un seul dit de l'inconscient, malgré qu'il y ait autant d'inconscients que de sujets. Alors que dit-il, cet inconscient? Bon, si je faisais un séminaire, je vous le demanderais, mais comme je ne fais pas un séminaire, je vais vous dire la réponse que je me suis forgée. Ce point n'est en fait pas problématique. En réalité, lui non plus. L'inconscient ne dit qu'une seule chose, le phallus. Ou plutôt, le phallus et la castration, que Freud a popularisé, dont il a fait la clé à la fois de la sexualité, mais surtout la clé de la butée universelle de la fin de l'analyse chez Freud. Lacan n'a pas dit non d'ailleurs. Seulement, il a dit ce n'est pas une butée. Ce qui change tout. Finalement, la seule vérité véhiculée par le dit de l'inconscient qui parle, c'est le phallique et la castration. Lacan l'a explicité d'ailleurs dans Radiophonie, disant parlant donc de la vérité, je cite, avec la vérité, de rapport, il n'y en a qu'un de sûr. Si vous voulez qu'elle vous ait bien, la castration, la vôtre, bien entendu, est d'elle, pas de pitié. L'inconscient ne dit donc que le phallique. Il est accasé par conséquent dans le yadlin, que Lacan a proféré tardivement, car le phallique, c'est du 1, et du 1 hors corps parce qu'il vient du langage, de la rencontre des mots avec le corps, laquelle a effet de jouissance, mais de jouissance castrée, c'est le terme de Lacan. Jouissance castrée, selon son mot dans le petit texte Oupir. Cette jouissance, c'est ce que produisent toutes les formations langagières de l'inconscient. L'inconscient est un travailleur idéal, jamais en grève. Il travaille dans le rêve, le lapsus, etc. Il travaille, dit Lacan, pour, je cite, la jouissance qui fait fonction sujet. Celle qui a même structure que le signifiant et que Lacan écrit dans l'étourdi avec la fonction propositionnelle de Frege, phi de x, le grand phi de x. En tant que jouissance, c'est du positif, mais en tant qu'elle inclut un manque, qu'écrivait au départ le moins phi, Lacan l'a dit castré, jouissance castrée. Il n'y a pas d'autre dit de l'inconscient, finalement, que cette vérité de la jouissance castrée. Bien. Donc jusque-là, je dis, pas de problème, Lacan reprend de façon condensée, qu'il suffit d'extraire des choses que le lecteur qui commence à lire, faisons une hypothèse fictive, un lecteur qui commence à lire pour la première fois l'étourdi, s'il est un peu réveillé et qu'il a bien lu Lacan avant, il sait tout ça. Bon. Je passe maintenant à ce qui est inédit. En ajoutant le condise, Lacan fait déjà un pas hors des frontières classiques de l'écoute et de l'interprétation freudienne, qui vise ce qui se dit dans ce qui s'entend, à savoir la vérité du sujet. Lacan introduit quelque chose là qui n'est pas du registre de la vérité articulée. Et n'oubliez pas, là je place quelques références, en 1974, Lacan stigmatise ce qu'il appelle les amours de Freud avec la vérité. Ça cible le type d'interprétation freudienne, bien sûr. Et il va jusqu'à dire que c'est un modèle qui doit tomber pour fonder le discours complet.
On reprend, s'il vous plaît.
Je reprends. Donc, je dis, avec ce qu'on dise, Lacan fait un pas à côté de l'écoute et de l'interprétation freudienne classique. Et quand il le dit, Lacan, qu'il insiste, comme il le fait à partir d'un certain moment, sur l'inéluctable du midi de la vérité, il donne le principe de l'impasse freudienne de fin d'analyse. Donc, tout ceci pour vous dire qu'on est sur des questions cruciales pour la psychanalyse. Alors, je m'arrête un peu au condis, le modèle du condis, marqué par le temps grammatical du subjonctif. Eh bien, c'est une expression qui ne désigne rien du langage structuré, qui désigne seulement l'acte d'en user. L'acte qui profère, quels que soient les dits du sujet. Il est au niveau de l'usage. Et il n'a pas de signifié de vérité. Lacan, ça, il l'explicite. Il a comme seul signifié ce qu'il appelle l'existence. En écrivant « existence » avec le trait d'union que l'on sait, Lacan réfère encore à la logique, évidemment, celle des ensembles qui a eu à connaître ou à construire plutôt ce qui manque à toute rigueur logique. Et ce qui manque à toute rigueur logique, il y a différents noms, l'incomplétude, l'inconsistance, l'indémontrable, l'indécidable, etc. En effet, le trait d'union existence évoque le site hors, le condise et hors structure, existe à la structure. Alors, je me suis demandé, je veux dire des choses très simples là, pourquoi cette dimension du dire fait-elle tellement de problèmes? Outre qu'elle s'oublie, elle se saisit mal, c'est pas top. Alors, comment ne pas saisir pourtant que pour qu'il y ait langage et effet de langage, au premier rang desquels l'objet A qui manque, Lacan nous l'a tellement appris, qui a appris la suite du moins phi, encore faut-il qu'il y ait usage de langage. Et l'usage, c'est pas l'articulation, c'est la profération, à distinguer de l'articulation signifiante. Qu'ils disent Forda, le petit, vous connaissez l'exemple du Forda, qu'ils disent Forda plutôt que pas, ben c'est autre chose que le binarisme phonétique et signifiant de ce qu'ils prononcent, avec son effet de perte. Et on sait que pas tous les petits pourraient dire le Forda, même ceux qui parlent. On saisit avec ça l'autonomie de la dimension du dire. Ensuite, pourquoi Lacan cite toujours « Pourquoi votre fille est muette ?» Ben, précisément, ce n'est pas une question sur ce qu'elle pourrait avoir à dire. Et réciproquement, je vous fais remarquer, même quand on n'a rien à dire, eh ben, on peut n'être pas muet. Ça arrive même souvent. Ensuite, je me disais, tout enfant passé par le catéchisme, c'est le cas de tous, mais il y en a beaucoup, là, vous compterez, dans la tradition chrétienne, est-ce que tout enfant passé par le catéchisme n'a pas appris, sans même y penser, à distinguer l'existence et l'être, hein? L'existence de Dieu, on lui apprend à l'invoquer, notre Père qui est aux cieux. Pour ce qui est de l'être de Dieu, eh bien, là, on prédique, on lui a, sur l'être Dieu, de Dieu. Et dès les premières lignes du catéchisme, si ma mémoire est bonne, qu'est-ce que Dieu? C'est le créateur du ciel et de la terre. Bon, on saisit là que ce n'est pas la même dimension de l'être divin. Notez d'ailleurs que Dieu, même s'il n'existe pas, reste le créateur du ciel et de la terre, puisque on peut parler de ce qui n'existe pas avec le langage, justement, et que l'être, ça se pose à partir des énoncés du discours. ça commence au catéchisme, donc ça va très très loin, ça va même au-delà de la science-fiction. Et puis, pour cette exercité du dire, pensez à la jolie phrase de notre cher Molière dans Les Femmes Savantes, la phrase qu'il met dans la bouche de Chrysal, voulant accabler Monsieur Trissotin, le snob. Elle dit, on cherche ce qu'il dit après qu'il a parlé. J'y pense souvent. Elle ironise donc sur ses dits, mais en réalité, ce qu'elle dénonce, c'est les mauvaises intentions de son dire. Et ce sont elles qu'elle dénonce, les raisons de son dire qui lui paraissent mauvaises. Bon. Ensuite, période électorale comme celle dans laquelle nous sommes, est-ce qu'elle ne rend pas sensible pour tout le monde cette existence avec le trait d'union du dire par rapport aux finalités énoncées par rapport au dit des candidats qui nous annoncent ce que va être l'avenir? Enfin, je souligne que cliniquement, il y a des symptômes différents au niveau du dire et des dits. Au niveau des dits, c'est au niveau des dits que l'inconscient injecte ses formations. Lapsus, rêve, le rêve, puisque dans l'analyse, on a affaire au rêve qu'au récit de rêve. On n'a pas affaire au rêve, mais au récit de rêve. Donc au dit sur le rêve. Mot d'esprit, bien sûr, tout entier localisé au niveau de la matière verbale. Il n'y a d'inconscient que de dit, si vous en croyez Lacan, page 32, 92 de Encore. Et au fond, ce sont les symptômes au niveau du dit, ce sont toutes les une bévues de l'inconscient. Par contre, les symptômes ou les ratés du dire, ce que je vais appeler maintenant le dire acte, avec un trait d'union, ils sont autres, et le premier de tous, le plus radical, c'est le mutisme. Et puis, plus fréquent et moins radical, les inhibitions à prendre la parole, les inhibitions du dire acte, dans des conditions, conjonctures spécifiques pour chacun. C'est tout le problème de ce que l'on appelait à une époque la prise de parole, dans sa différence d'avec le texte de la parole. C'est donc très simple en réalité. Prendre la parole, c'est un acte qui n'est pas à la portée de tous. Ses symptômes diffèrent d'ailleurs selon les structures cliniques. Et il peut même être parfois à l'origine d'un déclenchement. Et en outre, pour chacun, il n'est à sa portée parfois que de façon intermittente. Donc là, on saisit qu'il y a du symptomatique au niveau du dire qui ne concerne pas exactement les dits. Bref, John Austin a publié en 1962 un ouvrage consacré aux actes de langage intitulé « Quand dire, c'est faire ». Il l'a publié pour distinguer les propositions performatives du genre « je te baptise », ça n'énonce aucun fait, ça énonce un fait, « je te baptise », des propositions affirmatives telles que « Socrate est un homme ». Mais en fait, il faut étendre le performatif au dire acte. Tout le dire acte est performatif. Le qu'on dise est un acte de langage en lui-même performatif. Au début était le verbe, mais le verbe, ce n'est pas le signifiant. Le verbe, c'est ce que j'appelle le dire spermatique. Alors, au début de l'étourdie, Lacan va jusqu'à appliquer ce performatif à la fameuse proposition affirmative universelle, selon les termes d'Aristote, tous les hommes sont mortels. Hein ? Elle se présente comme une proposition universelle énonçant un fait qui est supposé être pour tous. Elle a quand de dire « Non, ce n'est que possible, ce n'est pas un fait. » En effet, cette proposition ne serait pas sans le dire acte qui la pose et qui donc est assez performatif pour promettre la mort à chacun. Égalité suprême, la mort, dont les politiques et les religions n'ont jamais manqué de se servir. Les oraisons funèbres de Bossuet sont exemplaires à cet égard, mais la ruse politique est toujours présente et Lacan la dénonce justement dans cette phrase en disant « C'est ainsi, en oubliant le dire, que la loi s'allège de s'affirmer comme formulée de nulle part. L'oubli du dire consiste à dissimuler d'où vient le dire, l'existence qui porte le dire. » Alors, l'existence du dire acte est donc en position d'exception fondatrice par rapport à tout ce qui se dit, par rapport au dit, par rapport à tout le champ du discours. En tout cas, je tiens personnellement pour acquise la distinction entre l'acte de langage, le dire acte et la structure du langage, ainsi que la différence de leur portée. Saisir cette différence est indispensable dans l'analyse, mais pas seulement d'ailleurs. La saisir est indispensable chaque fois qu'on veut situer une technique d'influence, chaque fois qu'on a affaire à ce que Lacan a appelé la canaillerie, pour le dire clairement, et également quand on parle du surmoi. Car dès les remarques sur le rapport de Daniel Lagache, Lacan avait noté que pour situer le surmoi, il fallait se placer du point de vue de l'existence et pas de la structure. Et même, il faut, peut-être c'est important même, pour situer cette chose dont nous parlons maintenant avec dilection, le style. Bon. Il y a donc beaucoup de champs où cette différence importe, mais évidemment, c'est son enjeu et son usage dans l'analyse qui, ici, nous compte pour nous.